Chapitre 15. Fin de la première bataille, dit Martin à son miroir, 10 jours plus tard. Mais il y en aura une deuxième et une troisième, et d'autres encore, jusqu'à ce que... Il n'acheva pas sa phrase. Il regarda autour de lui, dans sa méchante petite chambre, et ses yeux se posèrent tristement sur la pile de manuscrits refusés, toujours dans leurs longues enveloppes, qui jonchaient un coin du plancher. Il n'avait plus de timbre pour les réexpédier, et il s'entassait depuis une semaine. Il en recevrait d'autres le lendemain, et le jour suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et il ne pourrait pas les renvoyer. Il avait un mois de traite en retard pour sa machine à écrire. Il ne pouvait plus payer. Il avait juste de quoi régler sa pension et les honoraires du bureau de placement. Il s'assit et considéra la table songeur. Elle était couverte de taches d'encre et, à la réflexion, il l'aimait bien. « Chère vieille table, » dit-il, « j'ai passé de bons moments avec toi et, tout bien pesé, tu as été une amie fidèle. Tu ne m'as jamais repoussé, tu ne m'as jamais présenté de mots de refus immérités et tu ne t'es jamais plainte des heures supplémentaires que je t'imposais. » Il s'affala dessus, la tête enfouie dans ses bras. Il avait une boule dans la gorge et une envie de pleurer. Cela lui rappela son premier combat lorsqu'il avait 6 ans. Il s'était débattu de toutes ses forces, les joues inondées de larmes, tandis que son adversaire de 2 ans son aîné le labourait de coups de poing. Il voyait encore l'attroupement des gosses autour d'eux, entendait encore leurs huées quand il avait mordu la poussière, pris de nausées, le nez en sang et les yeux tuméfiés. « Pauvre petit gars, » murmura-t-il, « et tu en es au même point aujourd'hui. Tu t'es fait joliment rosser. Tu es knock-out. » La vision de cette première bagarre persistait sur sa rétine comme un éblouissement, ainsi que toutes celles qui avaient suivi. 6 mois plus tard, Tête de fromage, c'était le nom du gosse, l'avait encore rossé. Mais cette fois, Martin lui avait poché un œil. Autant pour lui. Il revoyait toutes leurs rixes, l'une après l'autre, lui toujours vaincu et Tête de fromage toujours triomphant. Mais il n'avait jamais fui. Ce souvenir le réconforta. Il avait toujours bu la coupe amère sans regimber. Tête de fromage était un lutteur acharné qui ne faisait pas de quartier. Mais il avait tenu bon. Il avait tenu le coup. À présent, il se voyait dans une étroite allée, entre des immeubles délabrés. C'est une impasse. Au bout, une bâtisse en briques, sans étage, qui résonne du vacarme rythmique des rotatives en train d'imprimer la première édition de l'Enquirer. Il a 11 ans, Tête de fromage 13, et ils livrent tous deux l'Enquirer. C'est la raison de leur présence dans l'impasse. Ils attendent leurs exemplaires. Évidemment, Tête de fromage lui a encore cherché Noise, mais l'issue du combat reste douteuse, car à 15h45, la porte de l'imprimerie s'est ouverte et la clique des petits livreurs s'y est engouffrée pour plier les journaux. Il entendait encore la voix de Tête de fromage lui dire « Je te casserai la gueule demain !» et sa propre voix répondre, en réprimant un sanglot, qu'il serait au rendez-vous. Et le lendemain, il était là. Il était venu de l'école en courant pour arriver avec 2 minutes d'avance sur Tête de fromage. Les autres gosses l'abreuvaient de conseils en lui garantissant la victoire s'il suivait leurs instructions et s'empressait de donner les mêmes conseils à Tête de fromage. Ah, la belle bagarre! Aujourd'hui encore, il enviait ses garnements pour le spectacle que Tête de fromage et lui leur avaient donné. Le combat dura 30 minutes, sans interruption, jusqu'à l'ouverture de la porte de l'imprimerie. Jour après jour, il se hâtait de quitter l'école pour arriver le premier dans l'impasse de l'Enquirer. Il ne pouvait guère courir. Ses courbatures ralentissaient ses mouvements. Il était couvert de bleu, de la taille jusqu'au coude, et sa chair meurtrie commençait à suppurer par endroits. Il avait mal partout, à la tête, aux bras, aux épaules, dans les reins. Même son cerveau se ramollissait. À l'école, il ne jouait pas. Il n'étudiait pas non plus. Le simple fait de rester assis à son pupitre était un supplice. Ses bagarres quotidiennes n'en finissaient pas. Le cauchemar semblait devoir durer éternellement. Pourquoi n'arrivait-il pas à corriger Tête de fromage? Se demandait-il constamment. Voilà qui eût réglé la question une fois pour toutes et mis fin à ses tourments. Mais à aucun moment il n'envisagea de baisser les bras et de laisser la victoire à l'autre. Et ainsi se traînait-il chaque jour dans l'impasse de l'Enquirer, blessé dans sa chair et dans son âme, mais prêt à tout endurer pour affronter son éternel ennemi, Tête de fromage, qui était aussi fourbu que lui et qui eût volontiers jeté l'éponge si la bande des petits vendeurs de journaux n'eût pas été là pour aiguiser son orgueil. Un après-midi, après 20 minutes de lutte acharnée selon les règles établies, interdiction de donner des coups de pied, de taper sous la ceinture et de frapper un adversaire à terre, Tête de Fromage, à bout de souffle, proposa le match nul. La tête toujours enfouie dans les bras, Martin revivait ce souvenir avec ferveur. Il avait encore dans la bouche le goût du sang de ses lèvres entaillées. Il avançait sur Tête de Fromage et lui criait en crachant le sang qu'il n'en serait jamais quitte. Tête de Fromage n'avait qu'à abandonner s'il avait son compte. Mais Tête de Fromage n'abandonna pas et le combat continua. La bataille reprit le lendemain, le surlendemain et les jours suivants. Au début, il avait du mal à lever les bras. Chaque coup reçu et donné lui fendait l'âme. Puis il oubliait la douleur et frappait aveuglément la face de Camembert qui grimaçait devant lui comme dans un mirage. Il n'y avait plus que cette face qui comptait. Le monde extérieur s'estompait dans un halo. Et il n'aurait de cesse que lorsque ses poings écorchés l'auraient réduite en charpie. Il fallait que l'un ou l'autre succombât, quoi qu'il en coûtât. Si c'était Martin, tant pis. Mais abandonner, lui, abandonner, jamais. Puis, un jour, Tête de Fromage ne se présenta pas dans l'impasse de l'Enquirer. On ne le vit plus. Les gamins félicitèrent Martin. Il avait battu Tête de Fromage. Mais Martin ne savoura pas sa victoire. Il n'y avait pas eu de victoire. Il n'y aurait pas de vainqueur tant que l'un ou l'autre n'aurait pas crié grâce. L'affaire n'était pas terminée. Ils n'apprirent que plus tard ce qui s'était passé. Le père de Tête de Fromage était mort subitement ce jour-là. Martin sauta les années jusqu'à ce fameux soir à l'auditorium. Il avait 17 ans et revenait d'une traversée. Une bagarre éclate dans la galerie. Il s'interpose et se retrouve nez à nez avec Tête de Fromage, les yeux exorbités. « Je te réglerai ton compte après le spectacle, » maugréa son ancien ennemi. Martin acquiesça, tandis que le videur se dirigeait vers les perturbateurs. « Je t'attends dehors après le dernier acte, » répondit Martin, impassible, en gardant les yeux fixés sur les danseurs qui s'agitaient sur la scène. Le videur les regarda d'un air mauvais et battit en retraite. « T'es avec une bande ? » demanda-t-il à Tête de Fromage pendant le premier entr'acte. « Sûr. » « J'en aurai une aussi, » certifia Martin. Pendant les entr'actes suivants, il rameuta sa troupe. 3 gars qu'il avait connus à la clouterie, un chauffeur de locomotive, une 30 de gaillards du Bou Gang et autant de la redoutable bande du quartier de Marquette. À la sortie du théâtre, les 2 bandes adverses prirent position de chaque côté de la rue et feignirent de déambuler nonchalamment. Dès qu'elles arrivèrent dans un coin calme, elles se réunirent pour tenir un conseil de guerre. « Le meilleur endroit, c'est le pont de la 8e, décréta un rouquin de la bande de Tête de Fromage. En plein milieu, où qu'il y a des lampadaires électriques. Comme ça, si les bourgs se pointent d'un côté, on peut se calter de l'autre. Ça me va, répondit Martin après avoir consulté les chefs de sa propre bande. Le pont de la 8e rue, qui enjambait un bras de l'estuaire San Antonio, était long comme 3 pâtés d'immeubles. Il était éclairé en son milieu et à chaque entrée. Aucun policeman ne pouvait passer sous les lampadaires sans être vu. C'était le lieu idéal pour la rencontre. Les hommes des 2 bandes, agressifs, l'œil mauvais, gardaient leur distance et soutenaient leurs champions respectifs. Tête de Fromage et lui se dévêtirent. On chargea des guetteurs de surveiller les entrées éclairées du pont. Un membre du Bou Gang tenait prêt le veston, la chemise et la casquette de Martin pour ne pas perdre de temps à les ramasser dans leur fuite en cas d'irruption de la police. Martin avança jusqu'au centre, face à Tête de Fromage et dit « Pas d'arrangement à l'amiable sur ce coup-là, compris ? C'est les poings qui parleront. Pas question de jeter l'éponge. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Il y en a un de nous deux qui restera sur le carreau. » Tête de Fromage eût préféré arrêter les frais. Martin le voyait bien, mais la présence des témoins piquait son orgueil. « Pfff ! Viens donc, au lieu de gaspiller ta salive, » rétorqua-t-il, « je suis ton homme. » À ces mots, ils se jetèrent l'un sur l'autre comme des taurillons. Avec la fougue de la jeunesse, les poings nus et la haine au ventre, mus par le seul désir de faire mal, de blesser, de détruire. Les laborieux millénaires de l'évolution humaine vers le progrès étaient passés par les oubliettes. Du monde moderne, il ne restait que les lampadaires électriques, dernières bornes lumineuses sur le chemin de la grande aventure de l'homme. Martin et Tête de Fromage étaient 2 brutes de l'âge de la pierre. Leur lutte aveugle les enfonçait dans la nuit des temps, les replongeait dans les rudes commencements de la vie, dans le tourbillonnant conflit des atomes et des poussières d'étoiles en collision perpétuelle. Bon Dieu, on était de vraies bêtes, des bêtes brutes, marmonna Martin dans sa chambre en revivant la bataille, dont il voyait les images défiler comme dans l'œilleton d'un kinétoscope. Il était à la fois spectateur et acteur. Fini, ces longs mois de culture et de raffinement. Il redevenait le Martin Eden d'alors, le vaillant marin, luttant au corps à corps avec Tête de Fromage sur le pont de la 8e rue. Il souffrait, peinait, suait, saignait et jubilait en sentant ses poings nus mordre dans la chair adverse. Ils étaient deux bourrasques de haine qui appelaient la tempête. Le temps passant, les deux bandes rivales firent silence. Jamais ils n'avaient vu tant de férocité. Ils étaient médusés. Ces deux lutteurs-là étaient encore plus teigneux qu'eux. Leur jeune vigueur s'essoufflant à la longue, ils mirent un frein à leur hargne pour frapper avec plus de discernement. Aucun des deux ne parvenait à prendre le dessus. « Ça tourne au match nul !» dit une voix. Alors Martin tenta une feinte, hop, droite, gauche, fut violemment contré et sentit que sa joue était ouverte jusqu'à l'os. Ce n'était pas un poing nu qui avait fait ça. Un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Il pissait le sang mais ne s'en laissa pas compter. Sachant par expérience de quelle scélératesse et de quelle vilainie ses semblables étaient capables, il choisit la prudence. Il observa, hésita, feignit un assaut et s'arrêta net en voyant luire du métal. « Fais voir ta main » cria-t-il. « T'as un coup de poing américain. C'est avec ça que tu m'as frappé. » Les deux bandes se dressèrent face à face, grommelant des injures. D'un instant à l'autre, l'affrontement pouvait se transformer en bagarre générale et Martin serait dépossédé de sa vengeance. Il était hors de lui. « Restez où vous êtes » aboya-t-il. « Compris ? Vous avez compris, bon Dieu ?» Ils reculèrent. C'était peut-être des brutes, mais lui était l'archétype de la brute, la terreur incarnée. « C'est mon combat ! Vous vous mêlez pas de ça ! Passe-moi ta ferraille, toi !» Tête de Fromage, refroidi, lui remit son arme félonne. « C'est toi le rouquin qui lui a refilé ce truc en douce tout à l'heure, » dit Martin, en jetant le coup de poing américain à l'eau. « Je t'ai vu passer derrière lui et je me demandais ce que tu foutais. Si tu me refais un coup comme ça, je te crève, vu ?» Ils reprirent la lutte, inlassablement, jusqu'à l'épuisement et au-delà. Bientôt rassasiés de sang, les deux meutes de témoins, terrifiés par le spectacle et oubliant leur rivalité, leur demandèrent de cesser. Tête de Fromage, monstre défiguré, prêt à se coucher ou à mourir debout pour abréger le combat, hésita. Mais Martin se rua sur lui et frappa, frappa encore. Peu après, alors que Tête de Fromage donnait des signes de faiblesse, on entendit un craquement sourd au milieu d'une pluie de coups. Le bras droit de Martin retomba mollement de côté, un os cassé. Tout le monde avait entendu et compris. Tête de Fromage se jeta dans la bagarre comme un tigre pour profiter de son avantage. La bande de Martin tenta de s'interposer, mais il les chassa avec une bordée de jurons et continua à se défendre seul, bec et ongles, en gémissant de douleur. Il n'avait plus que son poing gauche pour arme, mais il s'acharnait. Dans sa demi-inconscience, il percevait les murmures effrayés de l'assistance. Quelqu'un dit d'une voix tremblante, « C'est plus de la castagne, les gars, c'est un meurtre, faut arrêter ça !» Mais personne n'intervint, et Martin continua à cogner sans relâche, d'un seul bras, sur la trogne sanguinolente qui oscillait devant lui, cette chose sans nom qui refusait de disparaître de sa vue brouillée. Il cogna et cogna pendant des siècles et des siècles, jusqu'au moment où, usé, il vit comme en un vertige que la chose sans nom succombait et s'affalait lentement sur les planches du pont. L'instant d'après, à bout de souffle et flageolant sur ses jambes, penché sur le vaincu, il disait d'une voix méconnaissable, « T'en veux encore, dis ? T'en veux encore ?» Il répéta sa menace 10 fois, 20 fois. Les gars de sa bande le rejoignirent, lui tapèrent amicalement dans le dos et lui remirent son veston. Puis ce fut le noir et l'oubli. Sur la table, le réveil matin égrenait son tic-tac, mais Martin Eden, la tête toujours dans les bras, ne l'entendait pas. Il n'entendait rien. Ne pensait à rien. à demi évanoui comme il s'était évanoui alors sur le pont de la 8e rue, des années auparavant. Puis, se réveillant soudain d'entre les morts, il se redressa, l'œil brillant, le front en sueur, et s'écria « Je t'ai eu, tête de fromage. Ça m'a pris 11 ans, mais je t'ai eu. » Les genoux tremblants, il tituba jusqu'à son lit et se laissa tomber sur le bord du matelas. Il était encore sous l'emprise du passé. Il regarda autour de lui, perplexe, égaré, en se demandant où il était, et aperçut les manuscrits empilés dans un coin. Alors les roues de la mémoire redescendirent la pente des années et le ramenèrent au présent, à cet univers nouveau qui lui avait ouvert les livres, à ses rêves, à ses ambitions et à son amour pour une pâle fleur de fille, sensible et protégée des intempéries, qui se fût pâmée d'horreur devant la scène qu'il venait de revivre, devant toute l'étendue de fange qu'il avait dû fouler dans sa chienne de vie. Il se leva et se planta devant son miroir. « Tu t'es extirpé de cette fange, Martin Eden, » dit-il avec solennité. « Tu as baigné tes yeux dans une grande lumière et hissé tes épaules jusqu'aux étoiles. Tu as laissé mourir la bête pour accomplir l'ultime dessein de la vie et gagner le nom d'homme. » Il se regarda de plus près et s'esclaffa. Un peu mélodramatique, hein? Bof, que t'importe. Tu as fait rendre gorge à tête de fromage, et tu en feras bien autant avec les rédacteurs, même si ça doit te demander 11 ans d'efforts. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois continuer. Pas question de jeter l'éponge.